quand un jeune s'engage ou s'engageait dans l'armée, il se mettait au service de la nation. Quand je fais les courses pour ma voisine fatiguée, je lui rends service. Quand j'ai appelé la semaine dernière la caisse d'assurance maladie pour changer mon adresse, l'hôtesse a terminé la conversation avec un mot « à votre service, madame ». Et pas plus tard qu'hier, j'ai remarqué la caissière du Monoprix de courrier avec une belle inscription sur son t-shirt « Monoprix à votre service ». Le gouvernement a mis en place des chèques emploi-service pour faciliter l'accès aux besoins quotidiens d'une famille et d'une maison. Ce mot « service » est beaucoup utilisé dans notre vie quotidienne. Nous l'utilisons aussi dans l'Église. Lors d'une préparation œcuménique que j'ai menée pour un mariage, le diacre ne cessait de me répéter qu'il était au service de l'Église. Chacun de nous, c'est vrai, essaye d'être au service de Dieu dans l'Église. Et la réflexion de ce magnifique presbytère juste au-dessus en est une belle illustration parmi d'autres. Dans notre premier texte, celui des rois, Élie, prophète de Dieu, est à son service et doit consacrer Élisée, son successeur. Élie passe ainsi près du successeur Élisée et lui jette son vêtement dessus, signe qu'il le revêt d'une nouvelle fonction, lui transmet un héritage. Élisée, qui avait bien compris le geste, demande alors s'il peut quand même aller embrasser ses parents avant de partir. « Est-ce que je t'ai demandé quelque chose ?» répond Élie. Tout se fait ici par sous-entendu. D'abord un geste à la place d'une parole et maintenant une question agressive à la place d'une réponse. Élisée comprend alors que sa demande est malvenue et laisse tout. Ses bœufs, son bois d'attelage, ses instruments de travail, il en était quand même à la dernière parcelle sur ses 12. Il donne ensuite la viande et se lève, dit le texte, puis suit Élie pour devenir à son tour prophète de Dieu, serviteur de Dieu. Nous apprenons la même chose dans le texte de Luc, où Jésus dit à celui qui veut le suivre, mais qui demande d'abord d'aller enterrer son père, « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Tout ce qui est accompli dans la vie de tous les jours doit être laissé. Suivre le Christ transcende les préoccupations quotidiennes. Suivre Jésus-Christ n'est pas se tourner vers la mort, laisse les morts enterrer leurs morts, mais regarder vers la vie. Être serviteur, c'est choisir la vie. Et ce choix implique bien sûr un changement, tout laisser. Pour être prêt, il faut se dépouiller, pour pouvoir ensuite se lever, comme Élisée, c'est-à-dire renaître, être un homme, une femme, nouveau. Nos logiques de quotidien s'effondrent, toute notre vie change, tout notre être se transforme. Le serviteur n'est plus dans la même logique, ce qui est derrière est dépassé. La vie est regardée avec de nouvelles lunettes, dont l'adaptation est plus ou moins rapide. Cette transformation peut être radicale, comme nous l'avons vu avec Élisée, mais elle peut être aussi plus douce. Le changement peut même prendre toute une vie. Peut-être certains d'entre vous ici peuvent donner une date, ou même un moment précis où cette expérience spirituelle a eu lieu. D'autres parmi vous ont plutôt été dans un cheminement progressif. D'autres encore ne peuvent affirmer encore avoir rencontré Dieu, mais sentent que quelque chose est en train de changer, ou souhaitent simplement de changer et sont en attente. Choisir de suivre Jésus-Christ n'efface ni les questions, ni les doutes, ni même la révolte. Mais en revanche, une fois que nous recevons cet appel, que nous acceptons de regarder la vie différemment, nous ne serons plus jamais le même. Je suis sûre que chacun de vous le réalise. Nous sommes différents depuis que nous sommes au service de Dieu. Souvent, nous avons parfois même du mal à nous reconnaître. et à réaliser que nous sommes maintenant nouveaux aux côtés de Jésus-Christ. Dans notre texte de Luc, il est étonnant de noter les similitudes entre Élie et Jésus. Ils sont tous les deux à bout du rouleau, comme on dit, et rejetés. Élie par le peuple, car il annonce toujours des catastrophes de la part de Dieu. Jésus également par le peuple, qui le considère comme un trouble-fête qui vient tout bousculer. Et tous les deux sont appelés à marcher. Reprends la route, dit Dieu à Élie. Le moment approche où Jésus doit quitter ce monde, alors il décide avec assurance de prendre la route, dit le texte de Luc. Être serviteur, c'est aussi ne pas baisser les bras quand les difficultés ou la peur nous écrasent. Ne pas s'arrêter. Ne pas se replier sur soi-même, mais se lever et marcher. Nombreux sont les professionnels de santé physique ou mentale qui recommandent la marche. Excellente pour le cœur, elle l'est aussi pour la tête et est propice à des réflexions intérieures. Des retraites marche et spiritualité sont maintenant proposées dans le journal protestant Réforme. Et on peut même lire à la télévision, lors de publicités de produits alimentaires, qu'il faut marcher l'équivalent de 30 minutes par jour. S'arrêter, c'est mourir. Avancer, c'est vivre. C'est aussi ce que dit Jésus à la fin de notre texte. Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. Être aux côtés de Dieu, c'est regarder vers l'avant. Être sur la route la tête haute, les yeux vers la vie. Être serviteur implique d'être toujours en mouvement, dans sa tête, bouger avec les textes bibliques, mener des réflexions en église, apprendre à changer d'opinion, à écouter l'autre, être dérangé par un inconnu ou déplacé par un ami. Bouger aussi dans son corps. Aller peut-être là où nous n'aurions pas pensé aller. Partir à la rencontre de l'étranger. Être serviteur de Dieu signifie être ouvert dans sa tête et dans son corps. Être façonnable comme de l'argile. Être prêt à se laisser modeler par la parole et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Nous arrivons maintenant à notre dernier texte des Galates. La liberté dont parle Paul, celle qui nous a été donnée par Dieu, nous laisse libres de nos choix quotidiens, de nos réflexions, de nos paroles et de nos actes. Nous sommes libres de faire du bien ou de faire du mal à ceux qui vivent à nos côtés et à ceux que nous croisons. Celui ou celle qui décide de servir Dieu prend en même temps l'engagement de servir les autres. L'un ne va pas sans l'autre. C'est tout le paquet ou rien. Mais servir les autres, celui qui partage nos journées à la maison ou au bureau, ou encore cet autre que nous croisons dans la rue ou sur le palier et que nous ne connaissons même pas, cela n'est pas vraiment inné. Il faut se forcer pour rendre service. Et encore plus difficile, se forcer pour être au service. La vie est trépidante. Nous voulons toujours être les premiers, les plus performants, les plus méritants. Et toute cette course ne laisse que peu de temps pour nous arrêter et faire face au regard de l'autre. Ce fameux « tu dois aimer ton prochain comme toi-même » de Jésus dans notre texte a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et cette phrase redistribue notre regard vers l'autre. Lever le nez, regarder vers l'avant et voir le différent. Jésus me dit ici, comme toi tu es capable d'aimer, sois reconnaissant envers ton prochain. Comme toi aussi tu es capable de te détester, sois indulgent envers ton prochain. Un autre comme toi, si différent et pourtant si semblable. Le mal dit, le mal fait entraîne le mal, poursuit le texte. C'est la spirale infernale, vous savez bien. Personne ne veut lâcher le morceau, chacun se pense juste, et le mal triomphe. Un proche me disait l'autre jour, les trois mots que l'on doit le plus dire dans sa vie sont merci, s'il vous plaît, pardon. Pardonner, cela aussi s'apprend. Savoir s'abaisser devant l'autre, lui demander de nous pardonner, pas facile. La fierté est là. Pourtant, seul le pardon peut briser la spirale du mal. Et c'est Jésus-Christ, vous le savez bien, lui-même, qui en est le témoin ultime en mourant sur la croix, pour faire triompher l'amour par le pardon. S'abaisser devant tous jusqu'à la mort pour notre pardon. Alors dans l'Église aussi, le mal est là, et le pardon aussi. En ce début de ministère parmi vous, c'est le mot bienveillance que je veux vous donner. Être bienveillant envers chacun de nous et envers l'étranger qui franchit cette porte. Toujours vouloir croire aux qualités qui sont en chacun et chacune de nous. Avoir un esprit ouvert et accueillant pour croire que tout concourt à l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ. Pas facile, c'est vrai. Pourtant, Paul nous donne la clé de tout cela. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Priez pour être guidé dans des choix difficiles, dans des relations humaines complexes. Priez pour demander de nous donner les mots justes, les attitudes appropriées pour garder notre calme. Et croyez-moi, ça fonctionne, et de manière étonnante. Quand on combat nos désirs mauvais, je fais ce que je ne veux pas faire, cas classique que nous connaissons tous. Paul dit que si l'Esprit Saint nous conduit, nous pourrons vaincre ce combat. Nous serons alors au-dessus de la fierté, des culpabilités, des vexations, de la rancune et de la soif de pouvoir. Puisque nous sommes finalement tous ici dans le même but, annoncer la parole au service de Jésus-Christ, nous voulons maintenant demander à l'Esprit Saint de nous guider tous ensemble dans ces années à venir. Nous voulons être accueillants les uns envers les autres, simples, authentiques et par-dessus tout, bienveillants. Rappelez-vous, la bienveillance, c'est notre prière pour ce matin. Amen.